Laudetur Jesus Christus.
Le pape recommande une conversion intégrale pour mieux protéger les mineurs. François dresse un message aux membres de la commission pontificale pour la protection des mineurs réunie cette semaine en assemblée plénière. On y revient juste après les titres. Américains et Russes, très discrets et peu disert pour le moment sur leurs discussions hier et ce matin concernant l'Ukraine. Moscou aimerait toutefois impliquer l'ONU. Pour le Palais de Verre, une force de maintien de la paix est très hypothétique. Des Syriens de la région de Latakia fuient depuis le début du mois l'insécurité. Ils ont trouvé refuge non loin de là, dans les villages libanais frontaliers. Reportage dans l'un d'entre eux de notre correspondante. Et puis les Tigréens craignent une reprise de la guerre, non pas tant civile avec Addis Abeba, mais entre le gouvernement fédéral éthiopien et l'Érythrée. Précision de notre correspondante en Éthiopie qui s'est rendue dans cette région.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. La convalescence du pape se poursuit normalement. François continue l'oxygénothérapie à haut débit la nuit. Durant la journée, il alterne haut flux et canule nasale. C'est ce qu'a annoncé la salle de presse du Saint-Siège en fin de matinée. La salle de presse de Saint-Siège qui a fait un point d'étape deux jours après le retour du Saint-Père au Vatican. Ce matin, il a concélébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, mais il est encore trop tôt pour dire si le pape pourra assister en personne aux célébrations de la Semaine Sainte. Un nouveau point sera fait vendredi. Le pape qui continue par ailleurs de travailler et qui n'a pas cessé de le faire durant son hospitalisation, pour preuve, ce message écrit et signé depuis l'hôpital Gemelli en date du 20 mars, adressé aux membres de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Ils sont réunis à Rome cette semaine pour leur assemblée plénière. François les remercie pour leur précieux service et les encourage à faire grandir le filet de sécurité dans l'église qu'ils construisent depuis une dizaine d'années, Jean-Benoît Harel.
En effet, Xavier, la commission a été érigée par le pape François en mars 2014 et a rendu son premier rapport en novembre dernier. Mais dans son message, le Saint-Père invite les membres à poursuivre leur précieux service, un véritable oxygène pour les églises locales et les communautés religieuses, précise-t-il. De plus, la prévention des abus n'est pas une couverture à étendre sur les urgences, mais l'un des fondements sur lesquels construire des communautés fidèles à l'Évangile, continue le pape. Créer un environnement sûr pour les personnes vulnérables, voilà, selon lui, le moteur qui devrait être une conversion intégrale pour chacun. Pour ce faire, le souverain pontife propose trois engagements aux 18 membres de la commission. D'abord de poursuivre le travail avec les dicastères de la curie, ensuite de collaborer toujours plus étroitement avec les entités civiles et associatives au niveau de chaque pays, et enfin de continuer à écouter les victimes à l'image du bon samaritain, afin que chaque témoignage ne devienne pas non des archives à compiler, mais fasse jaillir des entrailles de miséricorde d'où renaître.
Jean-Benoît Harel, et concernant la convalescence du pape, pour plus de précision, bien évidemment, une seule adresse, www.vaticannews.va. Une nouvelle rencontre entre responsables ukrainiens et américains s'est achevée ce matin à Riyad en Arabie Saoudite. L'objectif est de parvenir à un accord sur la trêve proposée par les États-Unis avec la Russie. Hier déjà, émissaires russes et américains avaient tenu de nouveau pour parler. Très peu d'informations ont filtré jusqu'ici. Quelles que soient les parties, l'important semble que ces discussions se poursuivent, Olivier Bonnel.
Oui, les mots sont très prudents et les déclarations laconiques, Xavier. Les consultations sont terminées, tous les détails se seront annoncés plus tard, a fait savoir en fin de matinée une source au sein de la délégation ukrainienne. La Russie, elle parle, dit analyser le résultat des discussions d'hier avec les États-Unis. Il s'agit de discussions techniques, a précisé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ce matin. Un des négociateurs russes a évoqué un dialogue intense, pas facile, mais très utile pour les Russes et les Américains, en évoquant les 12 heures de pourparlers ce lundi à Riyad. Un communiqué conjoint russo-américain a été d'abord annoncé, mais ne devrait finalement pas être publié. Ce que l'on sait néanmoins de concret, c'est que la délégation russe aurait évoqué un possible rôle des Nations Unies en Ukraine pour superviser un éventuel cessez-le-feu. Mais une force de paix de l'ONU reste très hypothétique à ce stade, a réagi le secrétaire général adjoint en charge des opérations de paix de l'ONU. Une éventuelle mission de paix doit d'abord recevoir un mandat du Conseil de sécurité, a rappelé le diplomate français Jean-Pierre Lacroix. Et alors que ces discussions se poursuivent, les bombardements russes sur l'Ukraine continuent également. Hier, une frappe a fait 101 blessés blessés, dont 23 enfants, à Soumy, dans le nord-est du pays.
Olivier Bonnel. Les États-Unis désireux d'être discrets concernant l'Ukraine, désireux de l'être un peu moins concernant le Groenland. Le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, le ministre de l'énergie, ainsi que l'épouse du vice-président, Jed Evans, se rendront cette semaine dans ce territoire autonome danois, ce qui est très mal perçu par le premier ministre sortant du Groenland et par la première ministre danoise, qui considère même que cette visite américaine constitue une pression inacceptable. En cause des prétentions de Donald Trump d'annexer l'île tout bonnement, le président américain a assuré qu'il ne s'agissait que d'une démarche amicale. La libération des otages israéliens retenus par le Hamas serait-elle encore une priorité pour Israël? Cette interrogation est posée par le président israélien lui-même, qui se dit choqué que cette question ne soit plus en tête des priorités ni de l'actualité. Isaac Herzog invite à poursuivre les efforts pour que les derniers otages rentrent chez eux. Pendant ce temps, l'armée israélienne maintient sa pression sur la Syrie. Outre des bombardements aériens, elle intervient au sol ce matin. Un char a mené une incursion dans la province de Dera, dans le sud de la Syrie, en riposte à des tirs, affirment les Israéliens. Les Syriens annoncent pour leur part que 5 personnes ont été tuées. Plus au nord de la Syrie, dans la région côtière de Latakia, les habitants ont fui non pas les Israéliens, mais les alliés djihadistes d'Ayat Tahrir al-Sham, qui ont perpétré un massacre de civils au début du mois. Pour ces réfugiés, une seule solution, se rendre au Liban voisin, où les villages frontaliers s'organisent pour accueillir ces nouveaux réfugiés. Reportage à Tal Biret de Manon Chaplin.
La mairie de Tal Biret a été transformée en refuge. À terre, des dizaines de matelas empilés, des valises encore ouvertes, des réchauds et couvertures. C'est ici que dort depuis 3 jours Isra. Et s'il faut, dit-elle, j'y resterai encore plusieurs mois.
Ici, grâce à Dieu, nous n'avons plus peur. Ils nous nourrissent, nous donnent à boire et nous fournissent tout ce dont nous avons besoin.
Depuis une semaine en Syrie, son village, Al-Aïché, est le théâtre de violents combats. Des tirs du matin au soir venus d'hommes vêtus de noir. Un matin, 5 d'entre eux sont entrés chez elle par effraction, détruit sa porte, pillé sa maison. Ce qu'il voulait surtout, c'était son mari, un ancien soldat de l'armée de Bachar al-Assad. Par chance, ce jour-là, il n'était pas là.
Je ne comprenais pas ce qu'il disait parce qu'il ne parlait même pas arabe. C'était des combattants étrangers. J'ai juste compris qu'il disait Allahu Akbar et Alaouit.
À Tal Biret, une 60aine de familles Alaouites ont débarqué au lendemain de la chute du régime. Depuis le début des exactions sur la côte début mars, elles sont désormais 500. La mairie, la mosquée, mais aussi les maisons des habitants ont été ouvertes pour les accueillir. Abdelhamid Sacre, le maire de la ville.
Il y a de nouveaux réfugiés qui arrivent ici tous les jours. Ils arrivent dans notre ville et dans les villes alentours. À chaque fois, nous leur demandons « Retourneriez-vous en Syrie si le gouvernement vous disait que c'était à nouveau sûr ?» Ils nous répondent « Nous ne retournerons pas tant qu'il n'y a pas de protection internationale. »
À quelques kilomètres de la mairie, des tentes ont été montées pour accueillir les réfugiés syriens dès 2011. D'après le maire, un deuxième camp devrait prochainement être ouvert pour accueillir ces nouvelles familles débarquées de Syrie. À la frontière libano-syrienne, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Inquiétude de plus en plus vive en Éthiopie, dans la région du Tigré, en dépit de la désescalade entre le chef du Front de Libération du Peuple du Tigré et le président de l'administration intérimaire du Tigré. Les habitants de cette région du nord du pays continuent à redouter une nouvelle guerre, notamment entre le gouvernement fédéral et l'Érythrée voisine. Augustine Passilly s'est rendue sur place.
Quelques 28 000 déplacés survivent depuis plus de 4 ans dans le camp d'Adi Mehamedai, installé dans la cour d'une école primaire. Malgré la fin de la guerre en novembre 2022, 1 million de riverains n'ont pas pu rentrer chez eux. L'ouest et le nord du Tigré restent en effet occupés par les milices Amhara et les troupes érythréennes. Pire, même si la perspective d'une guerre entre les soutiens du chef du Front de Libération du Peuple du Tigré et ceux du président de l'administration intérimaire semble écartée, la menace d'un autre conflit plane toujours, cette fois avec l'Érythrée voisine qui entretient des relations exécrables avec Addis Abeba. Parmi les résidents du camp d'Adi Mehamedai, Tewelde Birhan Gebresilassie a perdu une fille pendant la guerre et une autre a été blessée en combattant aux côtés des forces de défense du Tigré. Nous supplions les responsables politiques de ne pas déclencher un nouveau conflit et d'arrêter leur discours de haine, implore le sexagénaire. L'incertitude liée à l'éventualité d'une reprise des affrontements dissuade aussi les investisseurs comme Zafou Haile, qui revient tout juste d'Arabie Saoudite. La jeune femme explique vouloir monter sa propre affaire, peut-être une fabrique de savon, mais pour cela, elle attend que la paix revienne véritablement. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Tuerie au Soudan, dans la ville de Tora, dans le Darfour Nord déchiré par la guerre civile. Le collectif d'avocats Emergency Lawyers, qui recense les violations des droits de l'homme depuis le début du conflit, annonce que des centaines de civils ont été tués dans une frappe de l'armée soudanaise. Des avions de combat ont bombardé le marché de la ville. Aucune déclaration de l'armée n'a été faite pour le moment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.